Une nouvelle médaille Fields il y a quelques semaines pour le franco-brésilien Arthur Avila, une école mathématique reconnue dans le monde entier, une matière incontournable dans le système scolaire, et puis des rencontres, des expositions, des livres de plus en plus nombreux dans ce domaine. L'importance des mathématiques en France ne semble pas faiblir, malgré un recul continu du niveau des élèves. Autour de notre table cet après-midi, trois invités qui, chacun à leur manière, se mobilisent pour transmettre, faire aimer les mathématiques au plus grand nombre. Ils publient simultanément des ouvrages pour faire découvrir donc les maths autrement. Et c'est l'occasion d'une rencontre cet après-midi avec Stella Baruc, Sylvie Benzoni et Robin Jamais. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue. Stella Baruc, vous êtes enseignante, chercheuse en mathématiques et vous luttez depuis de nombreuses années contre l'échec scolaire dans ce domaine. Vous publiez « Nombre à compter et à raconter », c'est aux éditions du Seuil. Sylvie Benzoni-Gavage, vous êtes professeure de mathématiques à l'université Claude-Bernard Lyon 1 et vous participez à un ouvrage collectif donc, qui s'appelle « Rêve de maths » aux éditions du Nouveau Monde. Et puis enfin, Robin Jamais, vous êtes médiateur scientifique avant d'être mathématicien au Palais de la Découverte, rédacteur de la rubrique Magic Math dans le magazine Science et Vie Junior. Et vous êtes l'auteur du livre « Vous avez dit maths, de la maison à la ville, le monde en mathématiques » aux éditions d'UNO. Donc on va se retrouver ensemble dans quelques minutes pour voir ce que vous proposez pour nous faire aimer, comprendre les mathématiques. Et puis les auditeurs vont nous rejoindre avec toutes les questions et les messages, peut-être même des témoignages sur France Inter et les réseaux avec le mot-clé l'attaque. Le quiz scientifique de la tête au carré, ce sera pour terminer cette émission qui est réalisée par Céline Hilla et qui a été préparée par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Philippe Hénarejos.
Bonjour.
Vous avez intitulé votre chronique Ciel et Espace aujourd'hui le blues de la matière noire.
Oui, le 10 septembre dernier, dans cette même chronique, je vous parlais d'un résultat qui confortait l'existence de la matière noire. La matière noire, vous savez, c'est cette mystérieuse substance qui compose plus du quart du contenu de l'univers. On voit ses effets, son attraction sur les objets visibles, mais on ne parvient pas à la comprendre. Je vous disais aussi que ce résultat reposait sur des simulations informatiques et que par conséquent, il ne constituait pas la preuve définitive. Eh bien aujourd'hui, je vous reparle de matière noire parce que un mois et demi plus tard, une pluie d'études scientifiques est venue étayer l'existence de la matière noire.
Ça veut dire qu'on touche enfin au but là ou pas ?
Alors cela peut sembler paradoxal, mais c'est tout le contraire. Tout se passe en fait comme si les astrophysiciens voulaient à tout prix se convaincre que la moindre détection bizarre qu'ils enregistrent dans leur détecteur très sensible, qu'il soit dans l'espace ou au sol, démontrait que cette matière noire existe. Et cela donne une succession d'annonces qui, il faut bien le dire, à quelque chose d'un petit peu pathétique.
Allons bon, pourquoi ?
Oui. L'une d'elles date du 16 octobre. Une équipe de l'université de Leicester en Grande-Bretagne annonçait que 15 années d'observation du satellite XMM Newton montrait qu'un excès de rayon X était détecté à chaque fois que le satellite observait à travers la limite du champ magnétique de la Terre. Cet excès serait venu d'action, action AX,
oui.
Des particules exotiques donc de matière noire jusque-là théorique et qui auraient été créées dans le Soleil et qui viendraient percuter le champ magnétique de la Terre.
Oui, le Soleil serait donc producteur de matière noire.
Alors l'idée se défend, sauf que certains astrophysiciens jugent qu'il s'agit tout simplement, je cite, d'une stupidité. Les auteurs de l'étude arrivant à leur suggestion finale en oubliant certaines lois de la physique bien connues.
C'est quoi ? C'est un mauvais travail scientifique alors ?
Probablement, mais il y a pire. La profusion de résultats à la matière noire ne donne rien de cohérent. Allez, je vous énumère tout ça. 20 août, Université de Floride, une galaxie voisine, NGC 247, a été frappée par un énorme amas de matière noire. 18 septembre, l'équipe américaine d'AMS-2, une expérience conçue par le prix Nobel de physique Samuel Ting, annonce que les rayons cosmiques captés sont compatibles avec l'existence de matière noire. 19 septembre, des chercheurs espagnols confirment de mystérieuses anomalies de trajectoire des sondes Rosetta et Cassini lors de leur survol de la Terre. Anomalies inexpliquées, mais qui pourraient être dues à de la matière noire. 10 octobre, des radioastronomes australiens annoncent, après avoir observé le halo de la Voie lactée, qu'il y a en réalité moins de matière noire, moitié moins de matière noire que ce qu'on pensait. 16 octobre, les actions du Soleil, je passe. Enfin, 27 octobre, avant-hier. Un type de rayon gamma détecté par le satellite Fermi vers le centre de la Voie lactée renforce l'hypothèse de la matière noire. Alors évidemment, dans tous ces cas, les scientifiques sont extrêmement divisés. Et cette accumulation donne la terrible impression que dès qu'on ne sait pas ce qui cloche dans les observations,
c'est de la matière noire.
On l'attribue à de la matière noire.
Ça,
oui, exactement.
Ouais.
Alors début 2012, un astrophysicien dans le laboratoire de physique des particules nous déclarait d'ici 5 ans, nous ne trouvons rien, moi j'arrête.
Oui.
Car selon lui, d'ici 2017, le grand accélérateur de particules LHC devrait pouvoir trancher sur l'existence des WIMPs, ces particules toujours théoriques de matière noire. En attendant, eh bien, nous sommes au milieu du gué, ça fait 2 ans et demi à peu près. C'est comme si dans l'intervalle, les chercheurs essayaient coûte que coûte de se convaincre que leurs observations ou leurs expériences sont toutes en train de conforter la seule théorie qu'ils ont pour expliquer la masse qui apparemment manque à l'univers. Alors, à leur décharge, on comprend. Si la matière noire n'est pas confirmée, c'est le meilleur édifice théorique pour expliquer une grande partie de l'univers qui s'effondre. De quoi avoir le blues.
Voilà, le blues, la matière noire, chronique de Philippe Hénarejos, à réécouter, évidemment, sur franceinter.fr. Merci beaucoup Philippe, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Il sera question de mathématiques dans un instant, avec nos invités et vos messages, bien sûr, franceinter.fr, là aussi. I was made for loving you, avec Kiss, pour démarrer ensemble cette tête au carré.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Comment parler des mathématiques, les partager avec le grand public? Comment transmettre cette discipline qui fait rayonner la France au plus haut niveau international, mais qui enregistre dans le même temps des difficultés de plus en plus grandes chez les élèves? C'est le thème de notre émission cet après-midi avec mes invités Stella Baruc, Sylvie Benzoni-Gavage et Robin Jamais. Bien sûr, vous nous rejoignez avec vos messages et vos questions, franceinter.fr et les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque. Vous êtes d'accord avec ce paradoxe, Stella Baruc? C'est-à-dire un niveau mathématique extrêmement bon sur le plan international, et puis quand on regarde en France, c'est de moins en moins bon. Hein. On fait ce constat-là aujourd'hui.
bien obligé.
Oui, malheureusement. Hein.
Bien obligé de
ça vous
constater.
Peine, hein.
Mais
ça,
bien sûr.
Ça vous peine.
Bien sûr.
Ouais.
J'ai tenté beaucoup d'analyser les raisons pour lesquelles ça se produit. Ben,
ouais.
Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent de ce point de vue-là.
Ouais. Vous le regrettez,
revanche,
après toutes ces années de recherche, justement, pour
mais
essayer de
sûr.
Faire en sorte de lutter contre l'échec scolaire ouais. en mathématiques.
En revanche, ce que vous avez dit, c'est incroyable, tout ce qui se fait autour des mathématiques.
Mais c'est
incroyable, c'est une explosion d'œuvres, de tentatives, de groupes qui travaillent sur les mathématiques. Enfin, les mathématiques, on entend parler quasiment,
oui.
si
et
j'ose dire,
et les mathématiques françaises.
Et les mathématiques françaises.
Hein, qui se portent quand même très très bien.
Voilà. Donc, effectivement, il y a un paradoxe
bon,
à creuser.
Sylvie Benzoni-Gavage, qu'est-ce que vous pensez finalement de cette situation ?
Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui a joué un rôle aussi, c'est les évolutions qui ont été voulues hein, des programmes. Donc, nous, on le ressent très fort dans l'enseignement supérieur. Après, c'est vrai que ces programmes ont été aussi pensés pour essayer, je pense, de mieux intéresser les élèves, hein, c'est sûr. Il s'est plus raccroché au concret.
Mmh.
Voilà. Le fait est que ça ne marche pas forcément avec tout le monde. Et,
oui.
et il reste une proportion.
Raccroché au concret, ça veut dire quoi, alors, justement, précisément ?
Alors, moi, je ne suis pas experte des programmes du secondaire, mais il me semble que la plupart des problèmes qu'on pose aux élèves sont à partir d'une situation concrète, notamment tout ce qui a été rajouté sur les probabilités statistiques.
Mmh.
Il me semble que c'est souvent des mises en situation. Voilà. Après, est-ce que ça les intéresse plus ou moins, je ne sais pas.
Ouais. Romain Jamais, alors vous, on vient vous voir pour les maths aussi au
voilà,
de la découverte.
Moi, on vient
hein.
me voir
vous avez
pour
cette
maths.
Chance-là.
Oui, oui, oui. Alors j'ai la chance. Alors il y a les deux. Il y a des classes qui viennent. Ça, c'est les profs qui amènent les classes.
Ouais.
Donc les élèves ne sont pas toujours
un peu poussés,
tous,
quand même, ouais.
complètement volontaires et ils font ce qu'on leur dit de faire. Et puis pendant les vacances et les week-ends, là, on a le grand public qui paye. Et qui vient exprès pour entendre parler de maths. Donc là, il faut reconnaître que généralement, c'est du gâteau. Ça, c'est,
ouais.
pas, c'est pas trop un problème. Encore qu'on a quand même régulièrement des gens qui y viennent en disant « je viens pour les enfants ». Ça, c'est un truc qu'on a très souvent. « Je viens pour les enfants » parce que bon, moi, c'est raté, mais voilà.
Ouais.
Et puis qu'ils repartent en ayant une autre idée des maths, ça arrive quand même assez régulièrement.
Ouais.
Pour répondre à votre question après sur le... Bon, moi, je manque de données chiffrées hein, pour dire si c'est de pire en pire. Et puis bon, les données chiffrées, il faut s'en méfier. Parce que qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit pas bon en maths ? Qu'est-ce qu'on évalue, etc. C'est une vraie question. Sur les résultats français, on peut aussi discuter parce que finalement les chercheurs sont de plus en plus internationaux. Donc, bon, mais le fait est qu'il y a évidemment beaucoup de médailles Fields qui se passent autour de la France. Donc voilà. Mais c'est. Alors sur l'aspect concret, enfin je sais pas si on démarre direct. Ouais. sur l'aspect être concret, alors je ne prétends pas être. Enfin, je prétends pas être représentatif de l'ensemble des élèves, tout ça, mais il se trouve que j'ai une forme de cerveau qui fait que quand ça devient concret, j'ai plus de mal.
Ah oui ?
C'est-à-dire que quand c'est une application, j'ai plus de mal.
C'est vrai ?
Oui,
vous êtes
sûr.
Mieux dans l'abstraction, au fond ? Mais
ça dépend ce qu'on appelle l'abstraction. Encore une fois, on en parlait un tout petit peu avant le début de l'émission, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont très abstraites quand on parle de physique.
Oui, vous écoutiez tout à l'heure la chronique sur la matière noire.
La chronique sur la matière noire, j'aimerais bien qu'on m'explique ce qui est concret là-dedans. Je pense que c'est des gens qui travaillent avec des théories mathématiques pures, qui sont dans des choses. Alors, ils ont quand même des observations, il ne faut pas exagérer, mais disons qui sont dans des choses extrêmement abstraites et qu'à l'inverse, il y a des abstractions que tout le monde a compris, qui ne posent plus de problème à quelqu'un, à personne, genre les nombres. Je pense que si je vous dis 27, ça vous paraît relativement concret.
C'est alors,
27,
vrai,
c'est
même
une
moi, ça me paraît
c'est
concret.
C'est une abstraction maths. Pure, ça n'existe pas 27. 27, quelque chose existe, mais pas 27.
C'était la Baruque. Hein.
Il a répondu. il a répondu à la question que j'allais lui poser parce que je suis tombée sur votre blog hein, où vous disiez je lis. Est-ce que vous voyez bien ce que veut dire 27, justement
ouais.
27.
Ouais, bah, c'est votre chiffre de prédilection.
Je ne sais pas, je suis tombé dessus par
vous
hasard.
Vous aimez bien
je
27,
Robin Jamais.
Nous
ouais.
aurons peut-être à dire quelque chose de 27, qui est un nombre assez étonnant.
Pourquoi ?
D'une certaine façon.
Ouais.
Je peux laisser alors, ça en réserve.
Alors, on le met en suspens, on ne va pas l'oublier.
D'accord. Mais alors, vous dites, j'ai fait exprès de ne pas prendre 42.
Oui, alors
pourquoi ?
Alors ça, c'est une référence geek, là. Ça, c'est une référence...
alors là, on est parti déjà dans une sacrée conversation.
Mais
vous avez choisi 27, mais vous n'avez pas choisi 42. Pourquoi, effectivement ?
Ça n'a absolument rien à voir avec les maths. 42, c'est une référence à un livre qui s'appelle Le Guide du Voyageur Intergalactique, qui est une très grande référence chez les geeks, comme on dit.
Ah oui.
C'est un livre complètement délirant de science-fiction. Voilà. Donc, sachant le public auquel je m'adresse, si je dis 42, ça veut dire quelque
ça
chose.
Évoque, voilà. Mais nous, on est moins geeks que vous, en tout cas, peut-être, Robin Jamais.
Il faut lire Le Guide du Voyageur Intergalactique.
Voilà. Donc, c'est une référence, on va la noter aussi.
Eh bien, voilà. Mais donc, ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est que il dit personne n'a jamais vu 27, mais c'est absolument ça. Personne n'a jamais vu 3. Mon livre se termine là-dessus.
Mmh.
Personne n'a jamais vu 3, ni 5, ni 7. Bon, mais ce sont des nombres, c'est-à-dire pas des, ce que j'appelle des nombres de quelque chose, c'est-à-dire ils ne sont pas supposés concrets, mais ils sont parfaitement sensibles. Et surtout, ce qu'un nombre permet et qu'un nombre de quelque chose ne permet pas, c'est une espèce de réflexion interminable sur sa forme, son écriture, que se passerait-il si, sur des réitérations, sur des processus. Les nombres permettent ça, tandis que les quantités concrètes, non. Donc, les nombres arrivent à lancer l'imagination d'une façon absolument formidable. Et c'est pour ça que, avec les enfants, il faut faire de l'arithmétique. Oui. Et de l'arithmétique au sens de théorie des nombres. C'est-à-dire, non pas l'arithmétique de Jules Ferry, mais l'arithmétique de qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier, qu'est-ce que c'est. Mais déjà, ne serait-ce que des nombres pairs et impairs. Hein, il n'est pas sûr que les enfants aient le sentiment de ce que c'est que la parité. Moi, je le fais commencer au CP. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre pair? Que donne une somme de nombres impairs, etc.
On donnera un petit exercice aux auditeurs. Tout à l'heure, Stella Baruc. Hein,
oui,
ce sera notre rendez-vous ludique. Hein. Donc, vous avez préparé une petite chose qu'on va expliquer dans un instant. Encore un mot sur 27, alors. Qu'est-ce que vous souhaitiez en dire tout à l'heure?
Ben 27,
qu'est-ce
qu'il y a d'intéressant à raconter après le petit exercice.
Ah bon, ben d'accord, si vous voulez. Larry nous envoie ce message sur franceinter.fr. Il nous dit ceci: ce qui me gêne dans l'utilisation actuelle des maths, c'est que l'on substitue la vérité mathématique à la vérité tout court. Pardon pour l'à peu près, dit-il, au sujet de cette citation. Voilà ce qu'il nous dit. Nous faisons tout dire aux nombres, car ils ont le bon goût de ne pas nous contredire. À compléter par la citation de Churchill: je ne crois que les statistiques que j'ai falsifiées moi-même. Qu'est-ce que vous souhaitez en dire?
Oui, alors, c'est assez marrant de dire que c'est les maths, enfin c'est les sciences. Enfin, on est dans une société scientiste, c'est pas nouveau, ça c'est pas spécialement les maths, c'est une façon de voir le monde et ça on peut effectivement être désolé du fait que les gens fassent beaucoup plus confiance en la science qui est plus soi-disant de la science parfois. Enfin, je veux dire, c'est, les scientifiques eux-mêmes sont souvent plus prudents que les gens qui utilisent ça d'autres fins. On est dans une société, on essaye de tout chiffrer, on essaye de tout normer, on essaye de tout... Voilà. Est-ce que c'est les maths qui sont responsables de ça? Je pense pas, non.
Viron nous dit: les difficultés de promouvoir les maths ne se traduisent-elles pas par le fait qu'elles relèvent de la culture scientifique, mais pas de la culture générale? Vous êtes d'accord avec lui?
Bah, pour moi, la culture scientifique, ça fait partie de la culture générale, évidemment.
Stella Baruc.
Bah, bien sûr que... Bien sûr qu'il faut une culture générale en mathématiques, et j'ai l'habitude de le dire que la pédagogie, elle mène à l'épistémologie, elle mène à l'histoire. On ne peut pas parler de nombres premiers sans avoir aussitôt une foule de mathématiciens qui déboulent avec leurs théorèmes, avec ce qu'ils ont pensé, avec ce qu'ils ont conjecturé. Donc, effectivement, une culture générale, elle inclut la culture mathématique, bien sûr.
Alors, cette culture, ben, vous y participez aussi, puisque vous publiez des ouvrages qui sont destinés plutôt au grand public, d'ailleurs. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un concours de circonstances, c'est qu'on a reçu beaucoup de livres de mathématiques, ces derniers temps. Les vôtres sont arrivés quasiment en même temps, c'est pour ça qu'on a souhaité vous inviter ensemble. Donc Stella Baruc, Nombre à compter, à raconter au seuil. Bref de mathématiques, ça c'est un livre Sylvie Benzoni-Gavage auquel vous participez, mais il y a un collectif en fait d'auteurs, préfacé par Cédric Villeni chez Nouveau Monde Édition. Et puis Robin Jamais, vous avez dit maths, donc chez Duno, de la maison à la ville, le monde en mathématiques. Au fond, c'est quoi l'esprit commun à tous ces livres, Sylvie Benzoni, aujourd'hui?
Est-ce qu'il y a un esprit commun?
Ben, j'ai l'impression quand même, vous avez une démarche quand même un petit peu.
Il y a une démarche en direction du public, ça,
ben
c'est
oui,
certain.
Au moins, ouais.
Après, je pense que les buts sont peut-être un petit peu différents. Là, le but de Bref de Maths, c'est quand même de faire communiquer directement les chercheurs auprès du public. Et donc, d'essayer de faire sentir aux lecteurs ce que peut être la recherche mathématique actuelle. Et pas forcément... Alors, bien sûr, le point d'entrée, ça sera des problèmes, encore une fois, concrets, parce que c'est ça qui permet... Je crois qu'en fait, toutes les disciplines sont un peu difficiles à vulgariser. Et ce qui fait que certaines le sont plus que d'autres, c'est que bah, si c'est biomédical, tout le monde est concerné. Les maths, ça paraît plus tortueux.
Ouais.
Mais finalement, si on part de problèmes concrets, donc il y a un certain nombre de brèves dans le livre qui font écho, hein, des choses qui ont trait à l'écologie, par exemple. Donc, il y a des modèles assez anciens qui expliquent comment les populations de poissons peuvent évoluer en fonction de qui mange qui, etc. En ce moment, on parle beaucoup d'épidémies. Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent toucher les gens. Et c'est un point d'entrée, en fait, pour les chercheurs, pour attiser la curiosité du public et essayer de faire sentir leur thématique.
Il y avait un blog au départ, hein, d'ailleurs.
Voilà,
hein.
Donc, ce sont des brèves qui sont choisies parmi... Il y en avait à peu près 250 sur le blog qu'on a tenu l'an dernier, là, oui. Toute l'année 2013. Donc on a fait une sélection un petit peu arbitraire. Hein. Je pense qu'il y avait des très bonnes brèves qui ne sont pas dans le livre. Mm-hmm. Mais voilà. Et donc c'est une aventure, un pari de faire s'adresser les chercheurs au public. Ce qui
blog
est pas
lui-même issu en fait de cette année internationale de,
voilà,
de l'UNESCO autour des maths.
Voilà, c'était une des initiatives. Voilà, l'initiative était partie de Christiane Rousseau au Québec, et une des initiatives a été ce blog en français. Il y a eu aussi d'autres choses dans tout le monde entier en fait.
Ouais. Qu'est-ce que ça a apporté réellement selon vous cette année donc de la planète Terre, donc année mathématique de la planète Terre, à cette discipline des mathématiques? Est-ce que du coup vous avez vu le changement? Est-ce que ça a suscité des vocations? C'est un peu compliqué de le dire tout de suite, évidemment. Mais il y a beaucoup de manifestations quand même d'organiser un petit peu partout.
Oui,
donc un sacré coup de projecteur sur cette discipline.
Oui, tout à fait. Ça a été effectivement une bonne occasion de faire découvrir. Alors, pas toutes les maths, mais certains aspects des maths autour de la planète Terre au sens très large, en fait. Hein. Il y avait la connaissance de la planète elle-même, mais il y avait aussi tout ce qui est organisation de la planète, les êtres vivants qui l'habitent, etc. Donc, c'était des thèmes très, très variés.
Stella Maruc.
J'étais très sensible à... Aurions-nous pu sauver le dodo?
Ah, le dodo de Madagascar,
cet oiseau, effectivement.
Avec les mathématiques?
Avec les mathématiques.
Ah ben tiens, comment on aurait pu faire alors pour sauver ce sympathique animal? Vous n'avez pas la réponse.
Je n'ai pas la réponse, mais l'étude des populations animales, effectivement...
Un cercle vicieux, proie prédateur, qui se renouvelle selon les rapports numériques entre les deux, pour aller très
vite. L'occurrence, il y avait l'homme comme prédateur aussi, non?
Oui. Mais enfin là, c'est une façon de montrer aussi comment on peut inclure les mathématiques dans un thème qui nous paraît pourtant très loin, a priori, de cette discipline. Mais enfin, voilà, on peut avoir recours aux maths pour résoudre...
La Terre a l'air d'avoir tout à attendre, les mathématiques, pour qu'elles soient un petit peu mieux traitées, apparemment.
Robin Jamais.
Oui, de toute façon, le propre du mathématicien, c'est quand même de s'intéresser absolument à tout. Après, il le transforme très rapidement en maths, mais on peut s'intéresser à n'importe quel thème. Et que ce soit pour une application ou pour autre chose d'ailleurs, enfin, c'est juste que c'est une façon particulière de regarder le monde.
Et dans votre livre, alors, vous avez choisi la maison, la ville?
Oui, alors en fait l'idée, on m'a demandé des maths dans la vie quotidienne et j'avais pas envie de faire que des applications, déjà parce que, alors je pense que ça peut être très très bien de faire que des applications, c'est pas pour...
Et là vous parlez à Sylvie Benzoni qui s'intéresse en particulier.
qui a quand même participé à une initiative que je trouve très bien, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, c'est pas le seul moyen, je pense qu'il y a plein de moyens différents, que ça dépend des gens, qui vont pas tous accrocher sur la même chose. Donc moi ce que j'ai choisi comme angle... c'est plutôt de dire on va regarder le monde à travers, on a tous une déformation professionnelle, enfin puis pas que professionnelle, on a des déformations suite à nos vies, aux parents qu'on a.
Vous dites, est-ce qu'il y a un endroit sur Terre où un mathématicien ne verrait rien qui ne lui fasse penser aux mathématiques? Compliqué, c'est très compliqué.
C'est très, très compliqué.
C'est une vraie déformation professionnelle.
C'est une vraie déformation. Alors sans être mathématicien, je suis quand même beaucoup dans les maths, donc c'est vrai que qu'on voit l'eau qui coule ou qu'on voit, ou du coup on se demande, on sait que c'est un problème très compliqué de modéliser ça, de trouver des équations qui décrivent bien ça, ou qu'on voit des animaux, voilà, on va penser au cycle proie prédateur, dans quel sens ça va se passer, il y a plus de proies, plus de prédateurs, etc. Comment ça va évoluer sur plein de choses. Et encore une fois, que ce soit des applications ou non, ça peut être aussi pour des jeux.
C'est-à-dire que, comment devenir un crack au jeu des allumettes, par exemple?
Les jeux, c'est quelque chose, c'est assez rigolo. Les matheux qui jouent au jeu, souvent, je ne veux pas faire de généralité, mais souvent, à la limite, gagner ou perdre, ce n'est pas grave. Par contre, comprendre comment ça fonctionne, ça c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'à la limite, ce qu'ils veulent, c'est tuer le jeu. C'est-à-dire que le jeu n'est plus d'intérêt et qu'on soit... On a compris comment il fonctionnait et que c'est plus la peine d'y jouer.
Et là, vous proposez vraiment des exercices à mettre en pratique, comme dessiner une ellipse, hein,
Oui, alors ça c'est des choses très concrètes. Alors les choses concrètes là-dedans, ça vient de le Palais de la Découverte, où on fait des manips devant les gens en exposé, et puis aussi du fait que je tiens la rubrique à Sciences et Vie Junior depuis maintenant 7 ans. Plus de 7 ans. Et donc là, l'idée, c'était justement dans cette rubrique pour attirer les gens. Alors là, pour attirer des gens qui a priori ne sont pas intéressés, pas de partir d'application, mais de partir de quelque chose à faire. C'est-à-dire que la rubrique qui était là précédemment était lue par très peu de lecteurs qui étaient très très attirés par contre, qui étaient très attachés à ça, mais toujours les mêmes, un tout petit nombre. Pour essayer d'en avoir plus, l'idée a été de dire, on part de quelque chose à observer, de quelque chose à bricoler, d'un tour de magie à faire, d'un jeu à faire, de quelque chose à faire, mais de concret dans le sens on fait quelque chose.
Alors, c'est une bonne transition pour Stella Baruc nous proposer un problème et s'adresser aux auditeurs. Alors, peut-être un tour de magie d'ailleurs, quasiment.
Comment ça fonctionne? Mais je peux peut-être juste dire un mot de ce que disait Robin tout à l'heure. pardon, plutôt que déformation professionnelle, je dirais tournure d'esprit. C'est-à-dire qu'un physicien va raisonner en physicien, un mathématicien en mathématicien, un amoureux des nombres, avec des nombres partout, il les verra partout. Par exemple, la date d'aujourd'hui, nous sommes le 29. Eh bien, le 29, il a un nombre de caractérisations incroyables, dont le fait que c'est un nombre de Queneau. Et Robin a parlé des nombres de Queneau, de la fameuse spirale, il pourrait vous expliquer ça. C'est un nombre de Sophie Germain, c'est un nombre premier, grande caractéristique. Un nombre de Sophie Germain, et j'en parle aussi dans le livre, c'est une sorte de nombre qui a aidé à résoudre le fameux théorème de Fermat qui n'a été démontré que récemment. Donc, 29 a toutes sortes de propriétés. Alors, je vais le proposer, si vous voulez bien.
Alors, on y va. Donc là, on s'adresse vraiment aux auditeurs. Il y a un petit exercice à faire. Ils auront le temps du disque, en fait, pour le tester, exactement, l'expérimenter à la maison. Alors, on prend 29. Qu'est-ce qu'on fait avec ce 29?
Non, je leur propose avec 29 ce que je vais leur expliquer avec 7.
Hein, d'accord.
Voilà, il y a un processus qui consiste à prendre un nombre. Alors, prenons 7. Si, comme il est impair, on va le multiplier par 3, puis ajouter 1. Ça nous mène à 3 fois 7, 21, plus 1 égale 22.
Okay.
Et comme 22 est pair, on va le diviser par 2. Ça va nous donner 11. Comme 11 est impair, on le multiplie par 3.
Donc on a 33 ajoute plus 1, 34. Okay.
Très bien. Comme 34 est pair, on le divise par 2, ça nous donne 17.
Okay. Donc ça, on le fait
pendant combien de temps ? On le fait jusqu'à, voilà. Alors, jusqu'à ce qu'on repère quelque chose.
Voilà, ça c'est le but.
Et il faut être un petit peu patient.
C'est ce qu'on demande aux auditeurs.
Il faut être un peu obsessionnel, comme le sont les mathématiciens.
Bon, on démarre avec quel nombre ? Alors,
29.
29, d'accord. Donc, puisqu'il est impair, on va le multiplier par 3.
Voilà.
Plus 1.
Très bien.
Et ensuite, on va obtenir un nombre, on verra bien ce qu'on a. Oui. Et si c'est un nombre pair, on va le diviser par 2 et on rajoutera plus 1. C'est,
voilà.
C'est bien ça ?
Non, alors, il sera de toute façon pair, donc on va le diviser par 2. Si on tombe sur un nombre pair, on divise par 2. Si on tombe sur un nombre impair, on multiplie par 3
et on ajoute.
Bon, j'espère que vous avez compris ce qu'on vous propose. Testez-le à la maison.
Il faut être patient.
Et observer quelque chose.
Voilà. Et ça n'ira pas au-delà de... Ce qu'il y a à observer n'ira pas au-delà de 20 itérations.
Bon, j'espère, parce qu'il nous faut le temps du disque quand même. Pour
le
pouvoir...
temps du disque.
Allez, on se retrouve
et
dans un instant.
Ils nous diront ce qu'ils ont trouvé.
Franceinter.fr et la Tech FI.
Let the river take them, river drown them. to your river. I will come to your river. I will come to your river. Come to your river.
Wash my soul.
I will come to your river.
Wash my soul.
I will come to your river.
Wash my soul again.
IBI avec River sur France Inter.
La tête carrée sur France Inter.
Voilà, ils ont envie de nous faire partager leur passion pour les mathématiques. Stella Baruc, Sylvie Benzoni-Gavage et Robin Jamais sont nos invités. Vos messages nombreux sur le site de l'émission franceinter.fr et sur les réseaux avec le hashtag l'attaque. Stella Baruc, donc le petit exercice que nous avons donné aux auditeurs. J'espère qu'ils ont pu nous suivre hein, pour l'éprouver donc à la maison. C'était quoi le but de l'opération alors exactement? Sur quoi on devait tomber?
Eh bien,
qu'est-ce qu'on devait observer?
On finit par tomber sur une boucle. On finit par arriver sur 4. Puis 2, puis 1. Comme 1 est impair, on multiplie par 3, on ajoute 1, ça refait 4, puis 2, puis 1. Bref, le processus s'arrête.
En partant de 29, donc, hein, c'était ça le but tout à l'heure, par exemple.
En partant de n'importe quel nombre jusqu'à aujourd'hui.
On retombe toujours sur cette boucle.
Voilà. Ouais. Et ça s'appelle le problème de Syracuse parce que ça a été, c'est à l'université de Syracuse. À un moment donné, on dit même que, on a pensé que c'était une, tous les professeurs à l'époque se sont passionnés, tous les mathématiciens, ouais. sur ce qui est pour l'instant une conjecture.
Ouais.
Est-ce que ça marche pour n'importe quel nombre?
Ouais.
Ça a été vérifié jusqu'à, je ne sais plus, un nombre de 400, des milliards, 32 000 billions. On a vérifié jusqu'à un nombre qui est de l'ordre de 32 000 billions.
Bon, on peut essayer de faire plus. Hein, pour.
On peut essayer. D'ailleurs, les relais sont proposés.
Ah oui, c'est vrai?
Oui. Et pour l'instant, on ne l'a toujours pas prouvé.
Bon, Robin Jamais, on apprend dans votre livre qu'une conjecture, c'est un résultat que l'on pense vrai sans être absolument certain. L'une des plus fameuses étant celle de Poincaré. Il a fallu attendre 100 ans, c'est ça, avec Grégory Perelman?
Mais il y en a des qui ont attendu bien plus longtemps. Hein. Je veux dire, la conjecture des nombres premiers jumeaux, elle a 2500 ans, quelque chose comme ça.
Et on n'a toujours pas trouvé.
J'exagère peut-être un peu, mais pas loin. Enfin, ça date de l'Antiquité, en tout cas. Et on n'a toujours pas la réponse.
Donc, il faut être patient parfois en mathématiques. Hein.
Très souvent, très très souvent. Et s'il y a une chose qu'on peut apprendre, justement, enfin, pardon, j'ai coupé la parole, mais. S'il y a une chose qu'il faut apprendre, effectivement, c'est notamment. Enfin, c'est une autre façon d'accrocher les gens. Dans ce qu'on a, la façon qu'on a de faire au Palais de la Découverte ou dans d'autres cadres comme l'association Matangins ou des choses comme ça, où on fait faire de la recherche aux gens. On essaye vraiment de leur faire comprendre que sérieusement, on attend d'eux qu'ils cherchent et qu'ils aient des idées et qu'ils trouvent des idées. Et quand ils se rendent compte que on ne leur donnera jamais de solution et qu'on sera juste là pour poser des questions et pour leur montrer quand ce qu'ils disent est faux et que vraiment il faut qu'ils trouvent quelque chose, ils se rendent compte que c'est dur. Mais ils se rendent compte aussi du plaisir qu'on peut trouver à chercher.
Oui. Matangin, vous avez un slogan d'ailleurs. Hein.
Matangin, c'est ne vivez plus les maths, vivez-les.
Voilà, exactement.
C'est ça.
Sylvie Benzoni-Gavage.
Oui, il y a une spécificité comme ça des mathématiques. Dans l'activité de recherche en maths, on se réfère très souvent à des auteurs anciens. Et effectivement, il y a un certain nombre de conjectures non résolues. Oui. Mais on va assez couramment lire la littérature ancienne. On fait figure d'oiseau rare par rapport à nos collègues pour qui les.
Parce que ça tient encore.
Dans certaines disciplines, les articles sont périmés au bout de 3 ans. Et ce n'est pas du tout le cas en mathématiques.
Oui. Et dans une des brèves que vous signez, justement, une concernant Pierre-Simon Laplace et le système du monde.
Voilà, donc c'est un des grands savants à la frontière 18e-19e siècle et qui a des contributions dans des domaines très variés. À l'époque, je pense que c'était encore possible de maîtriser, disons, l'ensemble des maths. Aujourd'hui, ça devient très, très difficile. Hein. Et on considère que c'est même plus possible de maîtriser l'ensemble des maths. Et en particulier, la théorie des nombres fait partie des... si on regarde les bases de données de nos articles de recherche, il y a en gros 60 sous-domaines des mathématiques et la théorie des nombres, c'en est juste un.
Ouais, mais ça veut dire qu'il y a de plus en plus de spécialités dans le domaine mathématique?
Oui, on est spécialisé. Ouais. Si vous voulez, on arrive à avoir tous les mathématiciens, disons, un socle commun qu'ils acquièrent, disons, en licence, 3 années après le bac. Et puis, au-delà, ça se spécialise assez rapidement parce que c'est difficile de tout assimiler. Ouais. Bon, déjà, les 3 ans sont difficiles à assimiler pour nos étudiants.
Ouais. Alors, il y a quelques jours de cela, on recevait Arthur Avila, médaille Fields donc, cette année, ce franco-brésilien, spécialiste lui des systèmes dynamiques, autre spécialité justement dans votre domaine. Et puis, il nous parlait justement du plaisir de découvrir les problèmes mathématiques. Je vous propose de le réentendre.
Devant un problème qu'on ne sait pas la réponse, il y a plusieurs façons dont on pourrait l'approcher. Mais on sent par notre expérience ou d'autres raisons qu'on ne peut pas expliquer, oui, quelle serait la meilleure façon de faire. C'est une certaine compréhension de l'esthétique du problème. C'est un mystère qu'étant guidé par la beauté, on arrive à des théorèmes à la fin. Donc c'est un bon guide. Les grandes questions arrivent souvent pas en allant directement, mais en travaillant beaucoup sur les domaines, parce qu'en travaillant sur une autre question, on peut découvrir quelque chose qui, on peut se rendre compte, pourrait être utile dans une autre situation. Mmh. Si on va très directement vers le soleil, ça, on va se brûler. De temps en temps, il faut travailler, mais laisser aussi l'espace à travailler sur des directions un peu à côté, qu'on sait que sont reliées aussi, et attendre que les choses se mourissent et les idées soient là.
Voilà, Arthur Avila, Stella Baruc. Il y a une sorte d'errance hein, dans la résolution des problèmes mathématiques, c'est ce qu'il vient de nous expliquer. Hein.
Absolument.
Il y a beaucoup de hasard aussi.
Voilà, et puis il y a comment dirais-je, la dimension du temps et ce que j'appelle le passage de témoin. C'est-à-dire, vous parliez de problèmes qui ont 2000 ans d'âge, en effet. Hein, la plupart des problèmes en théorie des nombres, ça commence à Diophante, ça continue avec les traductions qu'il y en a, Bachet de Mézières, puis Fermat, puis Euler, puis Gauss, puis... Voilà, cette espèce de passage de témoin. Mais ce qui est amusant dans la notion de conjecture, c'est qu'on l'appelle souvent un bébé théorème.
Oui.
C'est-à-dire... ça reste un petit peu comme ça dans les limbes jusqu'au moment où on a fini par le prouver. Donc, par exemple, le grand théorème de Fermat était un très vieux bébé,
ouais.
Très vieux bébé théorème, puisqu'il est resté pendant 250 ans. Je peux revenir à la question que vous avez posée tout à l'heure à propos de 27. Eh bien, 27 est un nombre redoutable pour le petit exercice que nous avons fait, parce que c'est au bout de 111 réitération qu'on finit par trouver ce fameux 4-2-1.
Ah oui, donc les auditeurs n'ont pas pu le trouver alors. La boucle était trop compliquée, là, on avait
mal
le temps.
Non, non, 27. Nous, on a proposé 29.
Ah oui, c'était 29, pardon. C'est
28, ça.
Mais
fait
vous m'embrouillez, 30. Voilà, alors.
Eh bien, ils ont le même nombre de réitérations,
voilà,
c'est-à-dire
27,
18.
Il aurait fallu mettre beaucoup plus de disques
voilà,
pour y parvenir.
Voilà, ils auraient certainement été découragés.
Jean-Paul nous dit ceci, est-ce qu'on n'a pas considéré les maths pendant des décennies uniquement sous l'angle scolaire comme facteur de sélection?
Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui a fait du mal aux mathématiques. De façon évidente, on en discutait avec des copains récemment en se disant on pourrait changer les choses, on pourrait dire que c'est l'art plastique qui est la discipline de sélection et on ne passe dans la classe supérieure que si on est capable de réaliser une perspective parfaite ou de faire la couleur demandée au micropoil sur commande. Mmh. C'est clair que on percevrait l'art plastique de façon très très différente et si à l'inverse, on laissait un peu les gens chercher et manipuler se poser des questions, parce que finalement les mathématiques, l'enseignement des mathématiques, alors je ne veux pas me faire des ennemis de tous les profs de maths, il y a des choses très très bien qui se font en classe, hein. c'est pas du tout le problème, mais il manque certainement un peu cet aspect-là, c'est-à-dire que c'est quand on pose une question, il y a une et une seule réponse généralement d'attendue et une façon d'y aller, et la recherche c'est exactement l'opposé de ça, donc faire appel, et on s'en rend compte quand on laisse chercher les gens, faire appel à d'autres capacités qui sont plus créatifs et qui correspondent vraiment, vraiment à ce que sont les mathématiques. Enfin, et passer par de la manipulation, quelque chose de très, très concret, dans le sens c'est palpable, c'est aussi une façon d'aborder les maths.
Stella Baruc.
Je crois que justement aussi, cette espèce de... Enfin, bon, il y a une nécessité à faire des mathématiques dans le cursus scolaire. Et la fameuse question qui se pose tout le temps, c'est ce fameux « à quoi ça sert ?» auquel on essaie désespérément de répondre. Mais il me semble qu'il y a des moments, et ça à plusieurs reprises dans mon livre, la petite fille, à la fois très virtuelle, à la fois virtuelle et très réelle.
Votre petite fille.
Très réelle, qui est mon interlocutrice, qui arrive à me faire incarner les questions, les réponses, etc. Eh bien, il lui est arrivé la première fois de dire à quoi ça sert. Je lui dis, écoute, à ce moment-là, ton exposé, il est réduit à 3 lignes. Si on doit dire à quoi ça sert. Donc, les autres questions, les autres à quoi ça sert, qui se profile quand on arrive dans des exercices du genre de celui que j'ai proposé, etc. Elle finit par dire « Ah oui, 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 j'arrête tout de suite. Je ne pose plus la question à quoi ça sert. » Et c'est vrai qu'il faut pouvoir marier de l'utile et de l'inutile.
Allez, je vous donne les messages des auditeurs. Gérard nous dit ceci, prof de français en collège ZEB. J'ai réussi à faire comprendre grâce à Marcel Pagnol les boules puantes en cours de maths dans le temps des secrets, le théorème de Pythagore grâce à des manipulations concrètes de découpage après travail sur le langage. Voilà un exemple donc de ce qu'il a pu faire. Je regrette que ce genre d'exercice soit prohibé par les instructions officielle, nous dit Gérard. D'autres messages, celui de Frédéric, la compréhension des statistiques et des probabilités serait très utile à tout le monde pour saisir la notion de risque dans quelque domaine que ce soit et désamorcer des peurs irrationnelles. Par exemple, l'enseignement des mathématiques peut-il y aider ? Sylvie Benzoni-Gavage.
Oui, j'imagine. C'est vrai que la culture mathématique qui est acquise en fin de lycée, en particulier dans les classes scientifiques, donne maintenant une importance assez grande à ces notions-là, de probabilité statistique.
Ouais.
Et effectivement, j'espère que ça permet aux élèves qui en sortent de mieux appréhender la notion de marge d'erreur. On a entendu dans le journal tout à l'heure parler de croissance. Il y a quand même un vocabulaire qui relève des maths dans le langage quotidien qu'on entend dans les journaux. Et avoir cette culture-là, je pense, est un atout pour tout le monde.
Thierry nous dit ceci, existe-t-il un profil de matheux et ne pensez-vous pas qu'il soit inutile au-delà d'un certain niveau à persister à mettre les élèves en échec provoquant des frustrations négatives à l'apprentissage d'autres matières ? Poum.
Ben, il y a des gens qui ont des prédispositions, mais comme pour tout, je veux dire, c'est comme pour l'art plastique. Après, c'est bien quand même d'essayer, quoi. Enfin, c'est...
La bosse des maths, c'est toujours là-dessus qu'on retombe. Hein.
Il n'y a pas 25 futurs médailles Fields dans une classe, mais il y a 25 personnes susceptibles de comprendre les mathématiques, voire de s'y intéresser.
Voilà, donc mais ça, c'est une autre façon très positive de voir les choses.
Absolument.
On a d'autres façons de toujours... s'y intéresser.
Ouais. C'est ce que j'ai toujours défendu. Voilà.
C'est la méthode Baruch, au fond. Hein. La méthode de celle qu'on appelle la fée des mathématiques.
Oh, je crois que c'est quand même la principale des motivations pour essayer de diffuser les maths auprès des élèves par différentes initiatives. Hein. On essaye de débloquer certains, quoi.
C'est quand même... Je voudrais saluer les auditeurs qui ont trouvé la bonne réponse à votre jeu, Stella Baruch, et qui nous l'ont signalé sur franceinter.fr. C'est Mathilde, Jean-Loup, Christelle et Emmanuel. Ils sont quatre.
Oh, c'est formidable.
Mais ils nous ont écrit un petit mot pour nous le dire, certainement, qu'on a d'autres auditeurs qui ont trouvé, mais qui n'ont pas envoyé de message. Donc, en tout cas, on les félicite. Oui. Merci beaucoup à tous les trois. Bref de maths, donc mathématiques de la planète Terre, préfacé par Cédric Villani. C'est aux éditions Le Nouveau Monde, Sylvie Benzoni-Gavage. Stella Baruch, donc, ses nombres à compter, à raconter, entre autres, à votre petite fille. Mais pas seulement. C'est aux éditions du Seuil, et là vous parlez de plein de choses, vous évoquez beaucoup la Nouvelle-Calédonie aussi au passage, et puis Robin Jamais, vous avez dit maths, de la maison à la ville, le monde en mathématiques, c'est chez Duno. Tous vos ouvrages évidemment sont sur le site de La Tête au Carré pour en savoir plus et comprendre exactement de quoi vous nous parlez. Merci beaucoup à tous les trois,
merci
au
à
plaisir
vous.
De vous retrouver.
J'ai pas envie de résister. J'ai peur.
À bouche, que veux-tu ? Brigitte sur France Inter. Et c'est l'heure de tester nos connaissances scientifiques avec le quiz de la tête au carré. Florence Porcel est bien sûr à mes côtés. Bonjour Florence.
Bonjour Mathieu.
Tout va bien ?
Tout va très très bien, merci.
On accueille de nouveaux candidats.
Mais oui, bonjour Margot, bonjour Raphaël.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue à tous les deux. Margot, vous habitez dans le Jura à Saisonnet, exactement.
C'est ça.
Ouais.
Oui.
Ça se trouve où ?
Oh, c'est un peu perdu dans le Jura, à côté du Mont Poupet.
Bon, vous êtes en altitude ?
C'est à peu près à 600 mètres d'altitude. Donc
ah, ben bah quand même, quand même. Nous, il faut faire au moins deux fois la Tour Eiffel pour arriver à cette hauteur. Alors, je vois que vous êtes préleveuse. Alors, c'est très étonnant. Ça consiste en quoi, ce métier ?
Alors, je suis préleveuse en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je prends des échantillons dans les rivières, en fait, pour l'agence de l'eau.
Ah, très bien. Mais Raphaël, c'est presque ce que vous faites, vous aussi, en tant que doctorant en écologie moléculaire à Villeurbanne ?
Bah, surtout que je travaille sur les cours d'eau de France et je travaille sur l'Aden environnemental.
Ah, c'est drôle.
Je suis aussi amené à faire des prélèvements en cours d'eau.
Eh bien voilà, donc vous faites quasiment le même métier. On va vous mettre en lien l'un avec l'autre. Vous allez peut-être nous faire des publications scientifiques formidables. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. On va jouer ensemble, bien sûr, pour vous offrir des cadeaux. Ce sera la boîte de jeu de la tête au carré, Florence.
Oui, bien sûr, la boîte de jeu de la tête au carré et le livre Safari dans la bouse aux éditions Delachaux et Niestlé. Bonne chance.
Et on va commencer avec la question d'actualité, Margot et Raphaël. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux ?
Oui.
La question d'actualité, la voici. La semaine dernière, on apprenait que des paléontologues avaient réussi à identifier le plus vieux rapport sexuel de l'histoire terrestre. Grâce à un animal, de quelle espèce ont-ils pu faire cette découverte ? Le chrono est lancé, vous avez 30 secondes.
Un poisson ?
C'est un poisson.
Margot, bravo. Vous qui travaillez les pieds dans l'eau, effectivement. J'allais d'ailleurs vous donner un indice, mais là, c'était beaucoup trop simple. Est-ce que vous connaissez la famille exacte de ce poisson, Margot ?
Non.
Ce sont les placodermes, ces poissons qui n'existent plus maintenant sur Terre, qui ont disparu il y a bien longtemps.
Ouais, très anciens, que les scientifiques ont appelés d'ailleurs Microbrachius, qui signifie petits bras, parce qu'ils étaient pourvus d'une paire de petits bras osseux en forme de L, sauf que ce n'était pas des bras, en fait, mais bien un appendice sexuel destiné à la fertilisation interne. Et comme les Microbrachius sont les premiers vertébrés et donc nos grands-parents, l'équipe de chercheurs australiens qui a publié dans Nature a découvert l'ancêtre du pénis, qui date donc de 385 millions d'années.
Voilà, donc on estime le premier accouplement à 400 millions d'années,
ouais,
à peu près. Bravo Margot, c'est ce placoderme qui vous rapporte 10 points pour commencer. Voici les questions de rapidité. 7 questions pour vous, 1 minute 30 pour y répondre. N'hésitez pas à nous demander de passer à la question suivante si vous n'avez pas la réponse. On envoie le chrono, Margot et Raphaël.
Oui.
C'est parti. Du nom de quel polygone désigne-t-on souvent la France ?
L'hexagone.
L'hexagone, Margot, petite avance. Quel jeune animal est représenté par Bambi ?
Un faon.
Un faon, Margot. Dans quel type de roche ont été sculptés les 4 présidents américains du Mont Rochemore ?
Granit.
Du granit, Raphaël, bonne réponse. Quel est l'organe le plus lourd du corps humain ?
La tête.
Non.
L'intestin ?
Non.
Les os ?
Non plus. On va y revenir ? On passe à la 5e question. Grâce à quel genre de machine peut-on fabriquer des prothèses, des composants de fusées, des maisons, voire même des pizzas ?
Imprimante 3D.
Imprimante 3D, absolument, Raphaël. Quel astronaute premier américain dans l'espace est retourné dans l'espace il y a 16 ans aujourd'hui ? Il faut le connaître, hein, ça se corse. C'est normal, c'est la 6e question. Non. Je vais vous donner même son prénom pour vous aider. Il s'appelle John. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non, hein.
Allez.
Non, allez, on passe à la 7e question. Quel est le nom scientifique de l'étude des rêves ?
Pas d'idée.
Non.
Pensez à la racine grecque, au songe. Ça ne vous dit rien ?
Peut-être revenir à la question 4.
Quel est l'organe le plus lourd du corps humain, Raphaël et Margot ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Nous en sommes couverts.
Oui,
la peau.
Et
c'était
voilà.
La peau.
C'est la peau, mais c'était trop tard. Dommage. La peau qui pèse quand même 5 kilos chez un adulte. Hein.
Mais oui, pour une surface d'environ 2 mètres carrés.
Alors, qu'est-ce que nous avions comme question ?
Quel astronaute premier américain dans l'espace est retourné dans l'espace il y a 16 ans aujourd'hui ? Il s'agit de John Glenn.
Voilà, il fallait le connaître, hein, celui-là. Ce n'est pas le plus connu de tous. Et qui est retourné dans l'espace en 98 à l'âge de 77 ans.
Oui, pour des expériences sur l'étude du vieillissement.
Ouais. Et il a aujourd'hui 93
ans. Oui, toujours vivant.
Donc il vit toujours. Quel est le nom scientifique de l'étude des rêves, Florence ?
C'était l'onirologie.
Et voilà.
Du grec ancien onéros, songe, comme dans l'adjectif onirique.
Exactement. Alors, on fait le total des points.
Et
qui a pris de l'avance ?
C'est 10 points partout. Donc 20 points en tout pour Margot. C'est Margot qui a une légère avance pour le moment.
Voilà, donc 20 points pour Margot et 10 points pour Raphaël. C'est l'heure du mot mystère. Margot et Raphaël, c'est le moment que nous préférons, car c'est nous qui vous écoutons.
Jouer.
Voilà, donnez votre définition. Margot, on va commencer avec vous. Vous êtes d'accord? Pas de problème?
Oui, oui.
Allez, 45 secondes pour faire deviner votre mot à Raphaël. C'est parti.
Alors, c'est dans une usine, quand ils font le premier exemplaire avant la fabrication. Donc, c'est le mot de...
Et hop là.
Parfait.
À peine 10 secondes, Raphaël, très en forme, nous propose le prototype. C'était une excellente réponse. Raphaël, on va essayer de faire encore mieux peut-être avec Margot. Si votre définition est claire comme de l'eau de roche, nous envoyons le chrono. C'est parti.
Alors, c'est le système incluant l'ensemble des organismes vivants et des milieux où ils vivent.
Écosystème.
Alors, l'ensemble des écosystèmes.
Qu'est-ce que c'est
au niveau planétaire?
Le cénose. Ah, au niveau planétaire, l'univers.
Non, au niveau de notre planète, à nous, la Terre.
Au niveau de la Terre.
Margot, vous le connaissez.
Le biotope, la biocénose.
Aller chercher moins loin, peut-être.
Ouais. Vous aviez le début.
Ça ressemble à un cube aussi.
Éco...
Non. Pensez à la Terre, plutôt.
Ça commence par bio.
Voilà.
Et laquelle forme la Terre?
Bio...
Peut-être que vous avez une
les écosystèmes.
La biologie.
Les écosystèmes terrestres.
Les écosystèmes terrestres.
Où l'on rencontre les êtres vivants. Processus dynamique sur la planète Terre qui date de 4 milliards d'années. C'était la biosphère, Margot. Ah, je pensais
la
que vous alliez...
Mais oui, vous êtes allé chercher loin, je crois.
Tourniez autour. Quel dommage. Et c'est donc Raphaël qui a remporté cette manche.
Cette manche, oui, mais pour le jeu, nous sommes ex aequo.
Voilà, et nous allons
Margot
donc devoir vous départager avec la question subsidiaire. Margot et Raphaël, le principe est simple. Une question, une réponse, bien sûr, et une seule réponse. Et c'est celui qui se rapproche le plus de la bonne réponse qui remporte
le jeu.
Les cadeaux. Vous êtes prêts?
Oui.
Quel est le pourcentage de neurones sur l'ensemble des cellules du cerveau humain? Alors, en pourcentage... Margot.
15%.
15% nous dit Margot, 7% nous dit Raphaël. Et c'est Margot...
Qui a précisément la bonne réponse.
Qui a la bonne réponse. Bravo. Voilà, sur 500 milliards de cellules, 15% de ces neurones sont dans le cerveau humain. Margot, bravo.
Merci.
C'est grâce à vos neurones que vous remportez justement la boîte de jeux de la tête au carré.
Mais oui, des éditions Marabout, 300 questions de science dans 6 domaines scientifiques pour jouer avec vos amis. Et vous remportez également Safari dans la bouse des éditions Delachaux et Niesley. Vous apprendrez des tas de choses à propos des excréments.
Voilà, et du monde des coprophages. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci de vous être inscrits sur franceinter.fr. On invite bien sûr les auditeurs
et les auditrices
à le faire comme vous. Bonne journée Margot et Raphaël. À bientôt peut-être.
Bonne journée.
Au revoir.
Aujourd'hui, mercredi dans les kiosques, un nouveau numéro de la collection du Monde, les grandes idées de la science qui explore la vie des grands physiciens et mathématiciens, justement. Cette semaine, Schrödinger, les paradoxes quantiques. Erwin Schrödinger, qui est à l'origine d'une véritable révolution de la physique quantique et des lois de l'électromagnétisme. Inventeur du fameux paradoxe du chat, il a imaginé cette expérience pour témoigner des lacunes de l'interprétation de Copenhague. Une interprétation de la physique quantique proposée par certains de ses illustres contemporains comme Niels Bohr ou Werner Heisenberg. Cette bataille des idées n'a pas empêché le physicien autrichien inventeur de la fonction d'onde de marquer durablement l'histoire de la science. Pour sa contribution au développement de la physique quantique, il a partagé en 1933 avec le britannique Paul Dirac le prix Nobel de physique. C'est ce que vous allez découvrir donc en lisant Schrödinger et les paradoxes quantiques. L'univers réside dans l'onde, un ouvrage de la collection Grandes idées de la science proposé par Le Monde en partenariat avec La Tête au Carré et à retrouver en kiosque dès aujourd'hui. Bonjour à vous Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu, vous savez que je suis accro à votre jeu, j'espère.
Mais oui, et vous avez bien répondu. Hein.
Oui, j'espère qu'Affaires Sensibles générera aussi des accros.
Alors, on parle de quoi aujourd'hui?
La secte de l'ordre du Temple solaire, entre octobre 94 et mars 97, 74 personnes ont été retrouvées mortes. Notre invité Serge Faubert, journaliste spécialiste des sectes.